Bonjour, Marco. Compte à rebours. Compte à rebours, eh bien vous le savez maintenant, ce sont des contes, des histoires, des légendes, des nouvelles, des petits textes, des choses bizarres et étranges. Et aujourd'hui, on va continuer sur les traces de Louise Michel. Alors après la première émission, j'ai reçu des lettres, notamment une personne qui me dit « Comment ça, vous ne faites aucune fois dans votre émission mention des idées anarchistes de Louise Michel. » Alors, pour satisfaire ceux qui aiment bien mettre des étiquettes sur les choses, on peut effectivement lui mettre cette étiquette-là. Mais chacun voit si c'est nécessaire de la mettre ou pas. En tout cas, ce qu'on peut dire et ce que j'avais dit, c'est que c'est un parcours quand même unique, cette Louise Michel, parce que d'abord, elle est née en 1830, c'est-à-dire non pas au siècle dernier maintenant, puisqu'on est au 21e, mais au siècle d'avant, il y a deux siècles de cela, une époque où, ma foi, globalement, les femmes étaient cantonnées à la cuisine et aux enfants. Bon, on peut pas dire que ça ait radicalement changé aujourd'hui, mais ça a quand même un peu changé. Et à son époque, vouloir faire autre chose que... Et puis surtout, vouloir parler, vouloir ouvrir sa gueule, dire des choses, eh bien, ça a mené un certain nombre de problèmes lorsqu'on était une femme. Lorsqu'on était un homme aussi, d'ailleurs, on s'en est rendu compte en 1871, lors de la Commune de Paris, quand tout un tas de gens ont été arrêtés, d'autres passés par les armes, tout simplement parce qu'ils avaient voulu faire entendre une autre voix, en l'occurrence celle du peuple et non pas celle de la bourgeoisie. Bon, c'est une vision que partageait sans doute Louise Michel. Elle a été donc féministe avant l'heure, et puis elle a été aussi pédagogue avant l'heure, dans le sens de s'interroger sur l'importance de l'éducation. Elle participait notamment, une fois qu'elle a été revenue de son exil en Nouvelle-Calédonie, puisque suite à la Commune, elle a été envoyée là-bas avec un grand nombre d'autres révolutionnaires ou d'autres, comment on les appelait, des fortes têtes. Bref, quand elle a été de retour, elle a continué à travailler, à s'engager, participer à la Ligue d'enseignement libertaire. Elle est restée à Londres, qui était à l'époque la capitale de la propagande anarchiste. Bon, donc je dis tous ces mots pour faire plaisir à ceux qui aiment bien les étiquettes. Louise Michel était un personnage étonnant. Et ce qui nous amène à en parler ici, dans cette émission, c'est le fait qu'elle est recueillie, alors qu'elle était en exil en Nouvelle-Calédonie, elle a recueilli des légendes et des chansons de gestes kanak, c'est-à-dire, les Blancs n'étaient pas les premiers habitants de cette île, comme d'ailleurs la plupart des terres qu'ils ont conquis, qu'ils ont occupées, et il y avait des indigènes, comme on les appelait à l'époque, ou des aborigènes, bon bref, des Kanaks, et qui étaient considérés par les Blancs globalement comme des brutes épaisses, qu'il faut coloniser et qu'il faut civiliser, voilà. Elle a été parmi les premières à avoir une autre vision. Elle dit, on n'a jamais senti le besoin de chercher à conserver les traditions, ni même à les comprendre. Et voilà, donc elle a recueilli un certain nombre d'histoires, et c'est ces histoires que j'essaye de vous conter, parce que ce sont des petites histoires. Voilà ce qu'elle dit dans un petit texte qui s'appelle Océan, qu'elle a écrit le 26 juin 1875 dans la baie de Ndji. La nuit tombe sur la baie silencieuse et dans l'ombre aboient les brisants. Ô mer, devant toi l'esprit s'apaise. Souffrir même n'est plus rien. Savoir est tout. Mais saurons-nous jamais? La science est une torche entre les mains des éclaireurs. À mesure qu'on la porte en avant, l'ombre se fait en arrière. Au fond de quel gouffre aller chercher la vérité? Est-il une utopie qui ne devienne à son heure réalité? Est-il une science qui ne doive se transformer? Qu'importe, cherchons toujours. L'horizon s'éclaircit. En attendant, disons à la vieille Europe les récits de l'enfance de l'humanité. Le lit des aïeux. Les aïeux sont couchés sur la haute montagne. Ils sont profondément endormis, immobiles comme le rocher. En vain passent près d'eux les danses des noces et les danses de la guerre. En vain montent vers eux les bruits de la tribu. Tout s'éteint sans écho. Dormez, ô père. La vie est bonne, le sommeil est meilleur. D'où sont les fruits mûris sur l'arbre et l'ombre des cocotiers pendant la nuit? Plus doux est l'oubli. Dormez, ô père. Dormez longtemps, le rêve est bon. Dormez toujours, le néant est meilleur. Que faites-vous, père étendu sous la terre? Et qui donc y repose avec vous? Qui donc ronge jusqu'à l'os vos bras robustes? Ce n'est plus le cœur qui bat sous vos côtes. C'était un crabe qui, levant sa pince, en arrache la chair. Quel brillant collier retombe de votre cou jusqu'à la poitrine. C'est le serpent de mer aux brillants anneaux. Ce ne sont pas vos yeux, ô père, qui s'agitent ainsi tout rouges. Ce sont des vers enlacés. Mais vous ne sentez plus rien, ô père. Vous ne voyez plus, vous n'entendez plus. Dormez, ô père, dormez longtemps. Le rêve est bon, dormez toujours, le néant, c'est le bonheur suprême. C'est ainsi qu'elle chantait sur la haute montagne, la noire Tei, dont le nom signifie « pleurer », Tei, la fille du cimetière. Elle y passait le jour, elle y passait la nuit. Tei n'avait plus de parents, et les morts l'avaient adoptée. Là, elle vivait des fruits qui tombaient des branches et sans cesse, elle chantait ainsi dans les hautes herbes. « Dormez, ô père, dormez longtemps, le rêve est bon, dormez toujours. Le néant, c'est le bonheur suprême. » Un soir, des jeunes filles étaient venues et l'avaient entraînée dans la danse qui tournoie jusqu'à la vallée. Mais le vent s'est enlevé sur la montagne, Tei y remonta sur ses ailes. Sa froide main glaçait les leurs, elle la laissèrent aller. Une autre fois, Nahoa, le matin, fils du grand chef à l'oiseau, lui avait dit « Veux-tu devenir la fille de mon père? Nous avons des nattes, des corses dans nos cases. Nos femmes portent des colliers de perles, de jade, dont elles ne se séparent jamais. Et mes pères ont à profusion l'indidio, qu'on ne peut recueillir sur les récifs qu'en sacrifiant la plus belle fille des tribus. Nos mères et nos femmes sont lourdes de graisse. Elles mangent les plus beaux fruits de la forêt, les meilleurs poissons du grand lac. Elles ont des ceintures de franges autour de la taille et des peignes de nichrohem dans leurs cheveux. Ce sont les filles et les sœurs, ce sont les femmes et les mères du grand chef, du chef à l'oiseau. Je suis le fils du grand chef, roi dès la naissance, et ma case porte la main de puissance chargée de coquillages. Veux-tu venir dans ma case aux filles du cimetière ? » Métei secoua doucement la tête et disparut au fond du bois funèbre. Et sa voix chantait dans la nuit le refrain qu'elle aimait. « Dormez, ô père, dormez longtemps, le rêve est bon, dormez toujours, le néant est meilleur. » Les blancs. Homme blanc, d'où viens-tu ? Il a fallu bien des écorces pour tisser les ailes de ta pirogue. Bien des arbres pour la creuser. Quelle puissance t'a donc arraché à ta case pour être venu d'aussi loin ? Car tu viens du plus loin qu'habitent les hommes sous le froid soleil qui les rend pâles. Si tu étais parti des îles que nous connaissons, à peine les ailes de ta pirogue seraient froissées, tandis qu'elles sont usées par le vent comme s'il y avait soufflé 10 fois l'igname. Homme blanc, que nous diras-tu pour être venu d'aussi loin ? Dans ton pays, on mange sûrement tous les jours, car un jeûne d'un matin paraissait incommodé. Que nous donneras-tu de tant de richesses ? L'homme blanc ne raconte rien, et il ne donne rien. L'homme blanc s'établit dans le pays avec ses compagnons. Ils y semèrent les graines dont la race pâle se nourrit et les gardèrent pour eux. On les avait reçus en frères, mais ils ne le furent pas. Depuis que les hommes blancs sont venus, on ne compte plus le nombre de fois où on a récolté l'igname. On n'en fait pourtant plus la fête, on ne compte plus rien. Les jours passent comme des gouttes d'eau du grand lac. Pourquoi le mesurerait-on, puisque les pirogues ailées de l'homme blanc garderont toujours le rivage ? Ils ont pris Kounié à la ceinture pâle, ils ont pris Nji, chevelure de brousse, ils ont tout pris. Plus jamais l'homme des îles ne sera joyeux, plus jamais il ne dansera sur la rive le pilou des mers. C'est ainsi qu'il disait le vieillard de Kounié. Mais les jeunes gens se mirent à rire. Ils dansèrent avec les filles blanches et leur donnèrent les colliers de jade de leur mère. les échangèrent avec les hommes des grandes pirogues, les haches de pierre de leur père pour les cougas, les fusils des blancs. Ainsi, tous les ans, ils formèrent sur la rive le pilou des mers. Magnifique Pinolaza Bamboo Band qui chantait Muna Manu, c'est la musique des îles, donc et on avait aussi la musique des îles Fidji, la musique de Nouvelle-Calédonie, puisque on était dans ces histoires. Et voilà, de ce qu'a recueilli Louise Michel dans ce petit opuscule qui s'intitule « Aux amis d'Europe ». Mais on aura peut-être l'occasion de repartir en Nouvelle-Calédonie pour quelques légendes. Pour l'heure, on va essayer de reprendre le flambeau d'une tradition dans cette émission. C'était l'histoire de notre ami Nasreddin. Nasreddin est avec tout un tas d'amis en train de prendre le thé. Ça discute, comme savent si bien le faire les hommes. Ça discute, ça refait le monde. Puis voilà que il est bientôt midi. Allez, on va dire midi moins cinq. Et là, Nasreddin dit, oh, mais écoutez, je vous invite tous à manger chez moi. Alors les hommes lui disent, mais comment tu vas faire? Ta femme va être surprise quand même que tu amènes 10 invités à l'improviste. Pas de problème, dit-il, j'ai de quoi la prévenir. Et là, il sort une petite boîte dans laquelle, au stupeur, tout le monde voit une souris. Et puis, il parle à la souris, il lui dit, va prévenir ma femme que nous avons 10 invités à manger ce midi, qu'elle fasse vite la semoule. Et hop, il lâche la souris. Et voilà la souris qui part dans la rue. Bien sûr, ses amis sont plus que sceptiques sur le résultat de l'affaire. Tellement sceptiques qu'ils veulent tous venir à cette invitation pour voir ce qu'il en est. Ils arrivent, et là, surprise, la femme de Nasreddin les accueille en leur disant « Bienvenue, j'ai bien reçu le message de la souris. Asseyez-vous, la table est mise pour 10 personnes, la semoule est cuite, tout est prêt. » Et la petite souris est bien là, dans une cage, que la femme de Nasreddin a posée sur la table. Alors bien sûr, ils mangent, ils boivent, ils discutent, et puis comme il s'agit de riches commerçants, tous veulent cette souris, tous veulent l'acheter, tellement bien que Nasreddin réussit à la vendre 100 dinars, 100 dinars, une souris. Et l'homme qui l'emporte est heureux. Vous devinez la suite, sans doute. Le lendemain, il vient se plaindre. Il vient expliquer qu'il a invité 20 personnes à un grand repas, qu'il a dit à la souris d'aller prévenir sa femme, et que lorsqu'il est arrivé avec les 20 invités, sa femme, eh bien, n'était pas contente du tout. La souris n'était pas venue. Nasreddin lui dit, oui, mais est-ce que tu as expliqué à la souris le chemin pour aller jusqu'à chez toi? L'homme dit, non, j'y ai pas pensé. Eh bien, voilà, c'est tout. Il fallait le faire, bien sûr. Tous ceux qui sont au chômage et qui ont des difficultés à arrondir leur fin de mois peuvent se servir de cette idée qu'ils envoient juste à l'émission Compte à rebours, 10% de leur gain, ça nous fera du bien. Voilà, ben c'est fini pour cette semaine. Si vous voulez avoir des précisions sur les musiques et les histoires, vous pouvez écrire à la radio. Et puis sinon, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine. C'était Marco. Compte à rebours, c'est fini pour aujourd'hui.